Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
C'est peut-être de l'orgueil ou de la vanité, mais j'écris toujours pour moi. J'ai toujours écrit pour mon plaisir personnel. Alors maintenant, la réponse est ambivalente, si vous voulez. Comment ça a du succès? C'est que chacun, peut-être, il trouve ce qu'il attendait ou il a trouvé ce qu'il n'attendait pas.
Toujours est-il que ces contes ont marqué et influencé plusieurs générations d'élèves et étudiants africains. Tout comme ces poèmes qu'ils étaient obligés d'apprendre en cours. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Birago Diop, le conteur et poète sénégalais.
Je me suis toujours défini un animiste sénégalais. J'étais tout jeune et prétentieux dans le temps-là. La religion, tu parles de la religion. Pour un Sénégalais, qu'est-ce que tu appelles la religion?
Non, pour vous, pour Birago.
Pour moi. Mais c'est la religion aussi, c'est un besoin. Parce que je suis superstitieux. Pour moi, la religion aussi, c'est une superstition. Parce que je tirerais d'un gourmet comme toi, un tiers gourmet, un tiers musulman, et un tiers animiste.
En cette première moitié de la décennie 40, le docteur vétérinaire qui passe l'essentiel de son temps à sillonner la brousse en Afrique de l'Ouest est revenu en congé en France, plus précisément à Toulouse. Mais il ne peut retourner en Afrique à cause de l'occupation allemande. Il monte alors à Paris et retrouve ses amis du quartier latin. Dans un quartier nommé Méphisto, il rédige certains de ses contes. Seulement, il n'est pas connu dans le milieu de la littérature et ne réussit pas à trouver un éditeur pour publier ce genre nouveau. Les contes africains.
C'est à Senghor que je les ai donnés. Alors c'est Senghor qui a essayé d'aller porter chef la main au Seuil. Et au Seuil, on lui a dit que c'était vraiment trop éloigné de la mentalité française. Exactement.
L'un de ces contes, commandé par Léon Gontran Damas, poète écrivain et homme politique d'origine réunionnaise, cofondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, paraît dans la revue du Monde sous le titre « Jugement ».
Qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France. La France éternelle.
C'est la fin de la guerre. Et pour Birago Diop, c'est le moment de l'explosion littéraire. Les premiers éléments des contes d'Amadou Koumba paraissent dans la presse et dans les anthologies, soit dans les plus beaux écrits de l'Union française de Senghor en 1947. Il marque dès ce premier livre sa prédilection pour la tradition orale des griots, ces conteurs populaires dont il ne cessa jamais d'écouter la voix. Respectueux de l'oralité.
J'ai écrit parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se perdre, qui allait s'en aller, parce que je crois que s'ils n'avaient pas écrit mes contes d'Amadou Koumba, peut-être si notre jeune peut-être, mais comme les jeunes n'ont pas eu la chance que nous avons eu, nous, d'avoir entendu les vieux ou les moins vieux,
oui, d'avoir
il fallait se dépêcher. Parce que surtout parce que j'avais eu la chance d'avoir eu l'autre grand frère, l'aîné, qui m'a déclaré d'ailleurs à l'état civil, Massila, qui était aussi un écrivain, un journaliste. C'est l'exemple de Massila qui m'a poussé à écrire.
Les contes de Birago Diop dégagent un charme tout particulier. Ils sont encore proches de la parole des griots, qu'ils restituent dans leurs gestuels et leurs apartés, dans l'alliance de l'humour et du réalisme.
Le jour même du départ des ânes et de leurs convoyeurs, Mort l'âme avait choisi dans sa tête le morceau qu'il prendrait lors du temps. tong-tong. Un os, un jarret bien fourni en chair et bourré de moelle onctueuse. Tu le feras cuire doucement, lentement, longuement. Avait-il depuis ce jour et chaque jour recommandé à sa femme Hawa jusqu'à ce qu'il s'amollisse et fonde comme du beurre dans la bouche. Et que ce jour-là, personne n'approche de ma demeure. Le jour arriva où les jeunes gens de la Maine, partis pour le ferlot, revinrent au village avec au milieu d'eux une corde à la patte postérieure droite, un splendide taureau aux cornes immenses, aux poils fauves brillant au soleil couchant. De son cou massif comme une souche de baobab, son fanon balayait la terre. Le partage s'était fait aussitôt dit Assalamu alaikum de la prière de Fidir. Les enfants n'avaient pas encore fini de racler les lambeaux de chair adhérents à la dépouille que Morlam était déjà dans la case après avoir fermé et barricadé sa porte et donné sa part à sa femme. Fais-le cuire doucement, lentement, longuement. Hawa, mis dans la marmite, tout ce qu'un jarret réclame pour, une fois cuit à point, fondre délicieusement dans la bouche, pour qu'il puisse donner un bouillon gras et moelleux qui mouillera onctueusement une calebasse de couscous. Un couscous étuvé comme il faut.
L'os, qui paraît dans le numéro inaugural de Présence africaine, va propulser son auteur dans une autre dimension. En 1944, Birago Diop est muté à Ouagadougou, puis à Bobo-Dioulasso, et ensuite en Côte d'Ivoire. Dans leur entreprise de vulgarisation de la littérature nègre, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor puisent à pleine main dans les contes de Birago Diop. En 1947 toujours, Jean-Paul Sartre, dans Orphée Noir, qui sert de préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor, salue l'originalité de la poésie de Birago Diop. Enfin, les contes d'Amadou Koumba paraissent aux éditions Fasquelle. Nous sommes en 1947. Ce recueil des contes qui rappelle encore beaucoup de souvenirs scolaires aux Africains, du moins à ceux qui ont fait leurs études secondaires en Afrique, va obtenir le Grand Prix littéraire de l'Afrique occidentale française. Le monde découvre un conteur au style original, rigoureux et très attaché aux valeurs culturelles africaines. En 1950, Birago Diop, après la Mauritanie, s'installe à Dakar. Il se tient loin du monde politique et marque nettement son éloignement avec la chose. Pour lui, la politique est une chose malsaine.
Tu me demandes pourquoi j'ai jamais fait politique. Par tempérament, par éducation, parce qu'à la maison, personne, ma mère, m'a défendu, toujours défendu presque en fait, de parler politique. Et ceci, je vais te le dire exactement, parce que le mot politique, c'était un verbe wolof, comme beaucoup de mots français. Quand quelqu'un disait « tu me politiques », Père politique existait, c'est-à-dire tu me fumistes, tu me couillonnes. C'était le mot le plus péjoratif que nous avions, nous, enfin, dans Sénégalais des quatre communes. Quoi.
Il travaille au second recueil des contes dont nombre de pièces sont dans la presse. En 1958, paraissent les nouveaux contes d'Amadou Koumba préfacés par Senghor. C'est la consécration définitive. Cette œuvre est saluée par la critique comme une grande réussite. Elle est adaptée sur la scène, traduite dans un grand nombre de langues, et devient, dans le sens premier du mot, un classique. On les enseigne dans les écoles.
Hé, hey, qu'est-ce qu'il nous dit ? Toi ? D'écouter plus souvent les choses que les êtres. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un conseil. Birago Diop est comme le grand-père qui vient et qui vous donne des conseils. Il n'a pas besoin de crier. Il vous aborde très amicalement, et très paternellement, très affectueusement, et vous dit, mon enfant, écoute plus souvent les choses que les êtres. vous avez l'habitude de ne pas faire attention à de petites choses dans la vie qui sont très importantes. Alors Birago Diop nous invite maintenant, nous tous, à faire attention à ce qui se passe autour de nous, aux objets anciens que nos ancêtres ont laissés pour essayer de redécouvrir la civilisation africaine, qui n'est écrite nulle part en écriture comme ça, mais que les gens qui peuvent observer peuvent comprendre.
Birago Diop est dans les salles de classe de toute l'Afrique occidentale française.
Comme je réponds aux jeunes écoliers qui viennent ici me demander des nouvelles sur mes comptes, ou qui me téléphonent, il y en a même qui me téléphonent pour se faire. Je dis, vous avez vos professeurs, vous avez vos maîtres, c'est vous qui devez savoir ce qu'il y a dans les comptes. Moi, j'ai mis ce que je savais, c'est à vous l'expliquer. Je ne suis pas critique. Je ne suis pas capable de vous expliquer mon compte. Je l'ai pondu, disons comme M. Jourdain, quoi. Je fais de la morale sans le savoir.
Mais dans ces années-là, la grande majorité des œuvres de la littérature négro-africaine est axé soit sur la négritude, soit sur la décolonisation. Ce qui fait que de nombreux critiques reprochent à Birago Diop de ne pas prendre position sur les grands sujets du moment.
Moi, cette originalité, vous pouvez les compter, mais j'en sors, j'ai vécu dans la négritude. Moi, j'en sors, moi. Tandis que les autres s'efforcent d'y rentrer. Pour eux, c'est une boule, c'est, mettons, notre coco qui veulent casser ou qui veulent rentrer dans la négritude. Tous, tant qu'ils sont, ils s'efforcent d'y rentrer. Et moi, j'en sors. J'ai toujours vécu par mes origines, par mon éducation, par mon milieu familial, j'ai toujours vécu nègre. C'est pour ça que ça m'environne tellement que je n'en parle pas. Je trouve tout à fait normal d'être nègre, bien qu'extérieurement je fasse le toubab.
Birago Diop montre aussi une certaine réticence vis-à-vis de ce qu'il appelle le bouillonnement politico-religieux de Paris, c'est-à-dire les écrivains militants africains. Au début des années 60, il est déjà un conteur confirmé. Nombre de ses œuvres vont être portées avec honneur sur la scène. Mais Birago reste très modeste sur ce succès. Ses références sont souvent des auteurs français du XVIIe siècle, Racine, Molière et bien d'autres. Mais même s'il fait référence à ses écrivains européens, il revendique son africanité.
Mon français que j'écris, c'est du Wolof français. C'est pas du français français, c'est du Wolof français. Parce qu'il me semble que quand vous me lisez, vous n'avez pas l'impression de lire un auteur français.
Birago Diop réunit les éléments épars de son œuvre poétique sous le titre « L'heures et lueurs » qui sort en 1960. Ce sont pour la plupart des pièces de facture anciennes, mais qui méritaient d'être regroupées et offertes au public. Birago Diop ne se considère toujours pas comme un poète.
J'écris des poèmes depuis l'âge de 19 ans, les ai ramassés 40 ans après, je crois bien, c'est « L'heures et lueurs », ce qui veut dire, oui, publié en 61. Je fus poète, je ne le suis plus. Et puis surtout, j'ai fait de la poésie pour ma, comment dirais-je, encore comme exercice, encore. J'ai pastiché, j'ai pas plagié, j'ai pastiché, j'ai imité. Je m'en suis fait attraper d'ailleurs, parce que pour une des fois qu'ils s'entendaient d'Amas et Senghor, ils m'ont dit que mes vers n'étaient pas assez nègres. Et Dieu sait que j'en avais déjà écrit aussi, par la faute, parce que je suis esclave de la rime. Je ne peux pas ne pas rimer. Je n'apprécie de poème que... Pour ça, je suis rétrograde, si l'on veut, un peu rétro, et je n'apprécie de vers que rimer. Je ne mords pas à la poésie nouvelle, quoi. Au vers, le vers libre, pour moi, et ça, c'est peut-être mon éducation primaire, première, je veux dire, à l'école coranique, l'assonance et l'allitération. Possible.
Alors que ses premiers poèmes de simples exercices d'école n'avaient pas retenu l'attention du public, la publication de ce conte a assis sa réputation du jour au lendemain. Cette œuvre est née avec le concept de la négritude. Elle en constitue une illustration éclatante. Elle n'a pas d'autre but que de faire ressortir le vrai visage de l'Afrique, de mettre en valeur ses spécificités culturelles. Retour aux sources, affirmation de la personnalité culturelle africaine, harmonisation de la tradition et du progrès. Autant de mots qui trouvent leur plein sens dans son œuvre.
Le peuple humain, par le vote unanime de ses représentants, proclame solennellement l'indépendance de la Fédération du Mali contre le Mali.
Si Birago Diop s'abstient de parler politique, il ne peut ignorer les grandes transformations qui s'opèrent dans son pays. Cette indépendance de la Fédération du Mali qui regroupe le Sénégal et le Soudan français proclamé ce 20 juin 1960 par Léopold Sédar Senghor, son ami, marque un tournant décisif dans la région qu'il continue de sillonner pour son travail de vétérinaire. L'indépendance ainsi proclamée en grande pompe cache mal les petites dissensions qui persistent au sein ou plutôt à la tête de la fédération. Entre Sénégalais et Soudanais, les surenchères sur l'unité africaine ont quelque peu scellé la place aux rivalités personnelles. La guerre des chefs va très vite aboutir à l'affrontement. Modibo Keïta est accusé cette nuit-là de tentative de putsch et Léopold Sédar Senghor monte aussitôt au créneau.
Citoyens du Sénégal, c'est le secrétaire général de l'UPS qui vous parle. Comme vous le savez, Modibo Keïta, poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. Il a destitué Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense du Mali. Or, il fallait pour cela l'approbation de la délégation du Sénégal à l'Assemblée fédérale. Il a mobilisé les troupes du Mali contre le peuple sénégalais, troupes dont la plupart sont des Sénégalais. C'est une autre illégalité, car la sécurité intérieure appartient aux États fédérés, non à l'État fédéral. Mais, comme chacun le sait, Modibo Keïta n'a cure de la légalité. À la force, nous répondons par des forces supérieures. Sénégalaises, Sénégalais, l'heure est grave. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance, cette indépendance dont les hommes politiques sénégalais ont été les principaux artisans en Afrique noire de langue française. Ce que l'on veut, vous le savez, on ne s'en cache pas. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Vous ressusciterez aujourd'hui la bravoure et l'honneur de nos ancêtres, d'un Ndiaye Ndiaye, d'un Latior Diop. Pour ma part, je suis prêt à mourir, comme tous les leaders de l'UPS. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal.
Cette nuit-là à Dakar, la tension est à son comble. C'est la nuit de l'éclatement de la Fédération du Mali. À 1h du matin, les députés sénégalais vont se réunir sur proposition de Mamadou Dia.
Réunis cette nuit en séance extraordinaire dans son palais, l'Assemblée législative du Sénégal a abrogé tous les transferts de compétences qu'elle avait consentis au gouvernement du Mali. Elle a décidé que le Sénégal se retirerait immédiatement de la Fédération du Mali. Et elle a, dans un élan unanime, proclamé l'indépendance du Sénégal. Cette indépendance, le gouvernement la défendra avec détermination et contre quiconque oserait la menacer. Il en a les moyens. L'Assemblée législative a voté une loi instituant légalement l'état d'urgence. Et elle a donné plein pouvoir au gouvernement. Pour une période de 3 mois, le gouvernement, j'en donne l'assurance, utilisera ses pleins pouvoirs pour asseoir l'indépendance sénégalaise sur des bases inébranlables.
Cette nuit du 20 juin 1960, donc, le Sénégal accède tout seul à l'indépendance. Et Léopold Sédar Senghor en est le président.
En présence de Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Après cet incident qui a mis fin à la Fédération du Mali, Birago Diop, qui a une réelle aversion pour la politique et qui est resté très en marge, va être rapidement sollicité par son ami le président Léopold Sédar Senghor pour une tâche qui n'a rien à voir avec son métier de vétérinaire et sa passion pour la poésie. On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Birago Diop, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Les Archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Mort l'âme. Immédiatement après la dernière génuflexion, demanda à l'écart à sa femme « Où est l'os ?»« L'os est là-bas. S'est-il amolli ?» Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule.
Il est assurément l'un des très peu nombreux auteurs qui auront fait découvrir aux Africains et au reste du monde la littérature, mais surtout les contes et légendes du continent noir. Ces fables que racontaient les ancêtres, grand-mère et grand-père au coin du feu. Il a créé un modèle qui, à force de persuasion, a été accepté comme un style littéraire, le conte africain. Ses œuvres relèvent désormais du patrimoine quasi légendaire de la littérature africaine francophone. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Birago Diop.
J'écris des poèmes depuis l'âge de 19 ans, les ai ramassés au bout de 40 ans après, je crois bien, c'est leur cellulaire, ce qui veut dire. Oui. Publié en 61. Je fus poète, je ne le suis plus. Et puis surtout, j'ai fait de la poésie pour ma, comment dirais-je, encore comme exercice, encore. J'ai pastiché, j'ai pas plagié, j'ai pastiché, j'ai imité. Je m'en suis fait attraper d'ailleurs, parce que pour une des fois qu'ils s'entendaient d'Aman et Senghor, ben, ils m'ont dit que mes vers n'étaient pas assez nègres. Et Dieu sait que j'en avais déjà écrit aussi, par la faute, parce que je suis esclave de la rime. Je ne peux pas ne pas rimer. Je n'apprécie de poèmes que... Pour ça, je suis rétrograde, si l'on veut. Un peu rétro, et je n'apprécie de vers que rimer. Je ne mords pas à la poésie nouvelle, quoi. Au vers, le vers libre, pour moi, et ça, c'est peut-être mon éducation primaire, première, je veux dire, à l'école coranique, l'assonance et l'allitération. Possible.
Emani tuyo beke take Ema pita ken kaite ala take.
S'il se la joue modeste malgré tout, avec les succès des contes d'Amadou Koumba, il est en cette fin de la décennie 50 l'un des auteurs africains les plus lus. Respectueux de l'oralité, il affine son talent original d'écrivain dans les nouveaux contes d'Amadou Koumba qui sort chez Présence Africaine en 1958. Et qui est préfacé par Léopold Sédar Senghor. Ses œuvres, ses poèmes et contes sont lus dans de nombreux collèges et lycées du continent. Sa voix compte, bien qu'il refuse de prendre position dans cette période où la quasi-totalité des auteurs noirs s'engagent dans la lutte pour l'émancipation et l'indépendance avec une idéologie, un concept fort qui domine, la négritude. Birago Diop sera silencieux devant les mouvements, les péripéties, même les troubles qui secouent son pays et qui vont aboutir à l'indépendance du Sénégal.
En présence de Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Léopold Sédar Senghor, qui proclame cette indépendance après l'éclatement de l'éphémère Fédération du Mali, va aussitôt faire appel à son ami Birago Diop. Il le sollicite pour prendre la représentation du Sénégal en Tunisie. Birago Diop entre dans la diplomatie.
Pour moi, l'indépendance ne m'a rien porté, au contraire, m'a tout détruit. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je le dis, tu peux le dire, quand à l'ambassade de France, je n'avais jamais le 18 juin, de Gaulle, j'y vais le 14 juillet. Je suis rétro, mais l'indépendance ne m'a rien porté. Au contraire. Alors là, il y a un facteur personnel, c'est dit. Je ne dirais pas l'indépendance, non, j'ai fait le couillon, j'ai écouté, patriotisme, malgré tout, quoi. J'ai toujours patriote, mais... Je suis allé en ambassade en prenant ma retraite par anticipation. J'ai reçu d'ailleurs assez de coups de caillou dans les vitres. De, chaque fois qu'il y avait un écho à l'ONU, c'était pendant la guerre d'Algérie, ben c'est l'ambassade qui dérouillait. C'est moi. Quand Gabriel Darboussier déclarait quoi que ce soit à l'ONU, ben c'est moi qui recevais des cailloux. Et là, comme on m'a foutu à la porte quand même de l'ambassade, ben, je ne regrette pas. Mais enfin, ça m'a coûté mon grade d'inspecteur général. Et ma retraite non plus, parce que le Sénégal me doit 3 années de retraite qu'il ne m'a pas encore payé depuis 1964. Tu diras que c'est du matérialisme sordide, mais enfin, je ne peux pas ne pas le dire.
je n'ai rien, pour le moment, je n'ai rien gagné à l'ambassade, à l'indépendance. À moi, personnellement, Birago a perdu à l'indépendance. Je dis, c'est tout. Si j'ai le facteur personnel, comme je suis quand même assez altruiste.
Maintenant...
Sauf quand on m'interroge, moi, c'est pas moi qui en parle. Je ne peux pas mentir parce que je ne triche pas, comme t'as dit François Nien. Je ne peux pas te dire ce que je ne pense pas. Oui. Maintenant, en ce qui concerne le Sénégal.
En réalité, l'aventure diplomatique va très vite tourner court. Birago Diop a une aversion pour la chose politique.
La diplomatie, ça n'a rien de politique. Et je crois que si on m'a renvoyé comme ambassadeur, c'est parce que je ne faisais pas de politique. Et si on m'a renvoyé aussi, ben, c'est parce que je ne faisais pas de politique. C'est une des seules questions, des seuls conseils que nous avons reçus de ma mère. Mais ne jamais faire de politique. Je n'en ai jamais fait, d'abord c'est mon tempérament, c'est pas mon tempérament.
La diplomatie ne va pas empêcher à Birago Diop de continuer d'écrire. C'est à ce moment d'ailleurs que paraissent les Contes et Lavanne en 1963.
Les fauves qui ne se nourrissaient que de chair fraîche et de sang chaud et qui ne goûtaient l'herbe qu'en bouillie dans la panse et les tripes de leurs victimes, les fauves, lions, panthères et d'autres moins redoutés, avaient fui vers d'autres pays où la tutelle des hommes sur leurs bêtes était moins vigilante et où la savane était peut-être moins complice de celle-là, biche, antilope, gazelle qui n'avait pas de maître, sans doute, mais qui n'ayant non plus ni crocs ni griffes, avaient toujours compté sur leurs pattes, sur l'écran des fourrés, sur la hauteur et l'épaisseur des touffes, ou sur l'humeur du vent pour sauver leur vie et prolonger leurs jours et leurs nuits.
Au cours de la même année 1963, date de parution des Contes et Lavanne, Birago Diop abandonne la fonction diplomatique et ouvre une clinique vétérinaire à Dakar. En dépit de ses déclarations, sa retraite reste très active. Il prodigue de nombreux conseils aux jeunes écrivains africains.
Lire, toujours lire et encore lire, c'est ce que je dis toujours. Parce qu'ils veulent écrire, on sent quand on les lit, ben, qu'ils ne lisent pas assez. Comme ils n'ont plus la chance d'écouter, parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, parce qu'ils ne fréquentent pas les vieux, il n'y a plus de vieux non plus d'ailleurs, moi je suis parmi les vieux, mais ils n'ont qu'un recours, s'ils veulent écrire, c'est lire. Lire, lire et lire, c'est ce que je répète, je rabâche toujours. Quand on ne lit pas, on ne peut pas écrire. Et ma chance, moi je crois que c'est ça, c'est que j'ai lu. J'ai tout lu. Quand j'ai lu sérieusement, je n'ai pas dépassé la moitié du 19e siècle. J'ai plus lu du Rabelais, j'ai plus lu du... Je me suis arrêté à Anatole France, voilà mes lectures, presque. Tout le reste maintenant, ce n'est pas sur rien. Tu me parleras de Camus, de Malraux, à ma courtante, ben, j'ignore totalement. Je lis, mais je ne retiens pas. Il est vrai que je suis trop vieux pour maintenant avoir des empreintes, des estampes. Et je crois que c'est une chance que j'ai du surréalisme. Je n'en ai jamais fait. D'abord, j'étais paysan à Toulouse, quoi, pas toi, parce que jusqu'à présent, il n'y a que Paris. Jusqu'au moment où je vivais, il n'y avait que Paris. Il fallait aller se tremper dans Paris. Moi, j'ai eu cette chance, j'appelle ça cette chance. On appelait ça peut-être, comment dirais-je, un manque. Mais j'ai eu cette chance que les années que j'ai passées à Toulouse, ça m'a permis de garder ma personnalité, de ne pas être rentré. Je ne suis arrivé que quand j'étais mûr à Paris, aux années 34. Ce bouillonnement politico-littéraire, je les ai connus très tard, quand je suis revenu. Mais autrement, je crois que si j'avais été à Paris, ben, je n'aurais pas eu la même personnalité.
Birago Diop, qui préside aussi l'Association des écrivains sénégalais et le Comité des nouvelles éditions africaines, va obtenir en 1964, à l'unanimité du jury, le prix de l'Afrique noire. Une récompense attribuée chaque année par l'Association des écrivains d'expression française de la mer et l'outre-mer. Birago Diop reprend du service. Il est également lecteur aux éditions africaines et n'hésite d'ailleurs pas à faire des reproches aux jeunes auteurs.
Ils manquent d'humour, naturellement, c'est pas de leur faute, c'est la vie actuelle, c'est la vie de maintenant qui ont fait ça. Ils n'ont pas le temps de rire, ni de. Mais plutôt le temps de sourire. Ils rient peut-être, mais ils ne sourient pas. C'est la nuance. C'est peut-être le mode de vie qui fait ça. Trop de besoins, peut-être. Trop d'embêtements. Mais même le peu qu'on lise, ben, je ne trouve pas. C'est leur défaut. Pour moi, c'est ce défaut. Ils manquent d'humour. Et pourtant, l'humour est typiquement africain aussi, quoi qu'on en pense. Pas le comique des situations, mais l'humour même des mots. Or, ils n'ont pas les mots vernaculaires, enfin, comment dirais-je, le mot Wolof, ou le mot Bambara, ou le mot Manding. Ils n'ont plus appris leur langue, et ils n'ont pas assez lu.
S'il avait le ventre derrière lui, ce ventre le mettrait dans un trou. Ainsi disait-on d'un gourmand impénitent. À propos de mort l'âme, l'on ajouta, si la cupidité ne t'a pas entièrement dépouillé, c'est que tu n'es vraiment pas cupide. Dans nombre de villages du pays, le bétail, ravagé par la plus meurtrière des pestes dont on n'eût jamais entendu parler de mémoire du vieillard, s'était lentement reconstitué. Mais dans l'Amen, aucun homme de 20 ans ne savait encore comment était faite une bête à cornes. Cette année-là, les pluies avaient été abondantes, la terre généreuse, les criquets absents. La récolte avait été magnifique, inespérée pour ceux de l'Amen.
Bana, une voix s'élève au lointain, invitant aux prières du soir.
Et la nuit s'étend sur le village.
Les oiseaux regagnant leur nido harmonisent le coucher du soleil. Oui, oui.
Et la nuit s'étend
Babdoudibé
sur le village.
Les hommes rentrant leurs troupeaux se disent encore une dure journée de passé ici-bas. Oui, oui.
Et la nuit s'étend.
Oui, 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 oui.
Sur le village.
La vie des idées. Oui, 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 oui.
Et après avoir expérimenté tous les genres littéraires, Birago Diop ne va pourtant pas s'essayer au roman, genre qu'il semble ne pas trop maîtriser.
Mais parce que j'ai le souffle court, disons. Et que je trouve que le roman est factice et manque de quoi qu'on dise, ben, ce n'est pas typé, le roman n'est pas typé. Et puis biologiquement, ben, je ne suis pas capable d'écrire parce que le roman ne fait pas partie de disons, la tradition ou même la biologie intellectuelle du Sénégalais. Je ne parle pas des autres Africains. Je ne crois que le roman, c'est trop dilué, trop diffluent pour notre mentalité africaine.
À partir de 1965, Birago Diop garde le silence. Il dit être à la retraite, n'avoir plus rien à ajouter ou à raconter.
Parce que, tout simplement, je n'ai jamais eu ambition de faire carrière littéraire. Tu le sais aussi bien que moi. Je ne me suis jamais posé en écrivain. J'ai écrit pour m'occuper, pour me délasser, pour, comme j'ai dit, essayer de retenir ce que j'avais appris et que je sentais qui partait. Mais je n'ai jamais eu l'ambition de... Je me suis arrêté en 65 parce que, tu le sais, il fallait quand même que je prenne le métier, que je fasse le métier pour lequel j'avais fait mes études, dépenser de l'argent, faire ma carrière. Je n'ai jamais posé à l'écrivain, quoi que tu en penses, ce n'est pas par humilité, fausse humilité ou pas. Si ce que j'ai écrit a eu l'heure de plaire, par son originalité, si l'on peut dire, ben, je ne me suis jamais posé ni un homme de lettres, ni un écrivain.
Birago Diop va aussi adapter à la scène L'os de Mort-l'âme. Ce conte qui va devenir un vrai classique connu de tous les élèves africains va rester à jamais gravé dans les mémoires de ses contemporains. Après un dernier recueil, Les Contes d'Awa, qu'il publie en 1977, il écrit ses mémoires en 5 tomes chez l'Harmattan.
Comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, je n'ai rien rapporté de France que ma science et ma femme, quoi, c'est tout. Tout ce que j'avais appris, ben, je l'avais appris à Saint-Louis du Sénégal.
Et c'est là que tu as commencé à écrire, quand même.
À Saint-Louis, ben, oui, c'est un peu, enfin, je griffonnais comme tout le monde, quoi. C'était toujours les peines de cœur d'adolescent, même si on les invente. Surtout quand on avait des jolis camarades, des jolis condisciples, métisses blanches.
Avec le recul, maintenant, tu as été influencé par quel poète écrivain français? Au départ.
Oh, ben je n'en crois pas. Non.
Nous avons l'occasion de parler de ça avec Mamadou Kane, qui a fait une
étude. Il en sait plus que moi, sûrement. Il va faire sa thèse d'ailleurs. Non, je ne pense pas. Comme j'avais tout lu et tout récité, parce que nous, on nous faisait réciter tout Racine, tout Corneille, tout Boileau, nous avons tout récité. Et moi, alors plus vicieux, je suis retourné comme faute de latin, ben j'ai appris le vieux français. Et si j'écrivais, si j'ai mon style, ce qu'on appelle le style Birago, c'est parce que le Wolof se rapproche, le Wolof se rapproche au français. Correspond jusqu'au 17e, quoi, à peu près, quoi.
À ce moment-là, Birago Diop prend réellement sa retraite, du moins, c'est ce qu'il dit.
Non, il n'y a pas de suite. Quand j'ai pensé que j'avais fait le maximum que j'avais à faire, que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, ben, j'ai trouvé plus sage, plus raisonnable, n'a pas forcé mon talent, et il peut passer outre. Parce qu'il me semble que je me serais forcé, tandis que jusque maintenant, ben, c'est tout doucement, tout tranquillement, que j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne peux pas dire ma carrière littéraire, parce que je ne m'attarde pas d'avoir une carrière littéraire, quoi qu'on en pense, apparemment. Je suis vétérinaire, et je l'étais, je ne l'ai pas fait, ma carrière. Et quand j'ai pu le faire, j'ai fait ma carrière vétérinaire. Tout simplement, je ne m'attarde pas. Les choses, les événements, ma production, ce que j'ai fait, ça a eu l'air de plaire, comme je te dis. On m'a étiqueté, on m'a mis l'étiquette d'écrivain. Je l'accepte, j'en suis même très fier, mais je n'en fais pas vraiment la raison de ma vie, quoi, si tu veux.
Désormais, le vieil homme de 80 ans se consacre à ses mémoires, mais également à son métier de vétérinaire dans sa clinique du Point E à Dakar.
Malheureusement, hélas, comme je dis, je n'ai plus affaire qu'à des bêtes civilisées et occidentalisées. Je ne soigne que chien et chat qui sont chouchoutés, qui n'ont plus rien à raconter. C'est pour ça que j'ai cassé la plume, comme je dis. Les bêtes qui sont sur la table ne racontent rien. Ce sont des bêtes, si je peux dire.
La mort surprend Birago Diop le 25 novembre 1989 à Dakar. Il a 83 ans. Mais comme il le disait si bien, les morts ne sont pas morts.
Toujours se poser pour n'avoir ni à s'imposer ni à s'opposer.
Il n'est pas un pas que je ne referai. Pas un pas où je ne remettrai pas mon pied. Mais je ne regrette pas le passé. Je m'en nourris, quoi.
Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts.
C'est par ce poème qu'il a légué au patrimoine culturel africain que se termine aujourd'hui notre série d'archives d'Afrique spéciale Birago Diop. Un nom désormais attribué à de nombreux prix, à de nombreux édifices à travers l'Afrique francophone. Vous pouvez réécouter cette série d'Archives d'Afrique sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook Archives d'Afrique, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Une semaine d'actualité.